Matière à penser, Dominique Rousset.
Et notre proposition ce soir pour une réécoute, écologie et politique, le grand malentendu. D'un siècle à l'autre, en effet, un retour vers le futur, les relations assez compliquées entre l'économie et l'écologie, pas d'économie sans écologie, nous a-t-on dit. Et puis aussi une réflexion sur nous-mêmes, la nécessité d'un débat public dans ces enjeux si importants, écologie et politique. Donc le grand malentendu et pour commencer, un retour aux racines de l'écologie politique. Bonsoir Florent Gagneur.
Bonsoir.
Philosophe des sciences, ancien conseiller scientifique de la Fondation pour la Nature et l'Homme, l'ex-Fondation Nicolas Hulot, et aujourd'hui vice-président de la Commission nationale du débat public. Comment vient-on à s'intéresser, très tôt, c'est votre cas Florent Gagneur, à l'écologie? J'ai envie de citer votre maître Serge Moscovici, dont nous allons reparler. Comment se peut-il que les hommes doués de raison acceptent, et ce durant de longues périodes, que leur existence dépende de choses non raisonnables et se laissent gouverner par des idées que l'expérience et la raison ont démenties? Vous avez lu très tôt aussi Serge Moscovici. Est-ce lui qui vous a convaincu?
Alors, je l'ai rencontré avant de le lire, en réalité. En fait, j'étais à l'époque jeune prof de philosophie à Sciences Po. Et je trouvais que la philosophie tournait un petit peu en rond, que c'était plutôt du niveau de l'environnement qui se passait des choses, mais j'étais pas du tout écolo, je connaissais pas du tout cette pensée, c'était ni mon univers, ni ma culture, ni mes origines. Et très clairement, donc, c'est la philosophie qui m'a emmené à l'environnement, puisque donc je cherchais des choses un peu subversives, un peu nouvelles, et il se trouve que j'avais une amie, Yolande Cohen, qui était très proche de Serge Moscovici, qu'elle me présentait comme un des pionniers de la pensée écologique, en me proposant de le rencontrer. Donc je l'ai rencontré, j'ai dû le rencontrer donc courant des années 2000, hein, vers 2008-2009. Et voilà, là c'est lié une relation intellectuelle entre nous, puisqu'il m'a à la fois formé, puis peut-être un peu même formaté, et ouvert à plein de choses qui m'ont impacté au point où je suis devenu écologiste. Donc moi je suis devenu écologiste par la philosophie.
Philosophe donc, et depuis les temps très ancien de l'Antiquité, une question anime la philosophie politique. On ne peut pas laisser l'appréciation des choses aussi sérieuses que la gouvernance des hommes à l'incompétence populaire. On en vient à un débat qui est encore très actuel, mais Platon l'avait déjà élaboré. La loi doit se fonder sur la science. Il l'avait même fait inscrire au fronton de son académie. Hein,
c'est vous qui me l'avez. Nul n'entre ici s'il est géomètre.
Voilà, c'est vous qui me l'avez indiqué. Pour le bien de tous, donc, le gouvernement des hommes doit être réservé aux savants. Et de l'autre côté, tout de même, l'expérience démocratique affirme que la raison du peuple peut, elle aussi, par définition, être excellente, voire la meilleure. Le rôle de l'écologie dans cette opposition, elle a reformulé, au fond, cette question de savoir et de pouvoir.
Mais en fait, cette question ne nous a jamais quittés. C'est-à-dire que... alors après, tout dépend de ce qu'on entend par écologie, on pourrait y revenir. Cette question de nul n'entre ici si n'est géomètre, c'est-à-dire que nul ne peut gouverner les hommes s'il n'a pas un savoir particulier...
supérieur à celui de la plupart des hommes.
De la masse, on va dire, voilà. Du commun. Et ce qui hante l'écologie politique, pas depuis toujours, on pourrait en revenir, mais en tout cas depuis une trentaine d'années. Et c'est d'ailleurs le point culminant de la philosophie environnementale en Allemagne, avec Hans Jonas, hein, et la publication de son livre « Principe responsabilité », en 1979, qui montre et qui d'ailleurs propose, pour le coup, même s'il s'en défendra par la suite en disant là non, je ne faisais pas une recommandation, c'était juste un conseil, etc., qui propose de s'orienter vers une tyrannie des experts ou une dictature des experts, parce que les experts, les scientifiques, étant les seuls à avoir accès à un certain savoir, donc qui est le savoir qui décrypte la crise écologique. Pourquoi? Parce que la crise écologique est inaccessible à nos sens. Personne ici, dans cette pièce, ou même en dehors, n'est capable de dire combien de particules de CO2 il y a par million de molécules dans l'atmosphère, ou le rythme d'érosion de la biodiversité. Personne ne connaît ces choses-là. Il faut un décryptage, une prothèse sensorielle, comme le dit Dominique Bourg, et c'est la science qui le dicte. C'est la science qui le dit, qui le décrypte. Du coup, étant donné que nous sommes en tout cas dans un système démocratique, mais c'est pas mieux dans les autres systèmes d'ailleurs. Nous prenons des choix, nous, avec notre sens commun, nous faisons des choix, et ces choix sapent l'avenir de l'humanité, étant donné qu'aujourd'hui, nous connaissons l'état de la situation, nous sommes entrés dans l'anthropocène. Donc du coup, ce hiatus entre, d'un côté, c'est l'homme du commun qui fait des choix politiques, les choix fondamentaux, mais en même temps, c'est le savoir scientifique qui dit ce qu'il en est réellement, est un hiatus qui a toujours travaillé l'écologie, principalement l'écologie allemande, puisque la filiation française s'inscrit dans une autre logique, mais c'est quelque chose qui a beaucoup travaillé les penseurs de l'environnement et qui continue encore aujourd'hui de faire rage.
Alors, vous avez parlé de Hans Jonas, c'est le premier auquel on pense, et vous avez cité ce qu'on pourrait appeler une école allemande, face à une école française sur laquelle on va revenir aussi. On parle de quelle époque, là? Parce que Hans Jonas, mais on pourrait remonter aussi à Heidegger, Hannah Arendt, on peut citer d'autres grands Allemands, Günther Sanders et d'autres.
Alors, Günther Sanders, Hannah Arendt, Hans Jonas sont tous des élèves de Heidegger, et on pourra ajouter, d'ailleurs, Walter Benjamin, qui fait aussi partie un petit peu de ses satellites, ont tous un point commun, c'est que ce sont des Juifs allemands qui, à la sortie de la guerre, à la fois ont vécu ou ont connu l'atrocité de plus ou moins proche d'ailleurs, l'atrocité de la Shoah, la catastrophe, qui ont l'obsession de ne pas la reproduire. Donc du coup, ils ont cette obsession de ne pas retrouver la catastrophe, sachant qu'elle est possible puisqu'elle a déjà été là. Tous ces penseurs-là se cristallisent un petit peu autour donc de Hans Jonas, qui est le principal. Et Hans Jonas a une autre caractéristique.
Qui parlait d'une relation de cause à effet entre la peur et la raison.
Tout à fait, oui, qui a développé cette heuristique de la peur et puis cette deux choses principales, c'est-à-dire l'heuristique de la peur et donc la tyrannie des experts. Et Hans Jonas a une particularité, c'est qu'il est spécialiste de la gnose. Il a fait sa thèse là-dessus et ses premiers travaux là-dessus. Et la gnose, c'est une...
Il va falloir définir, Florent Gagneur.
Alors, le gnosticisme est quelque chose qui, lors de la Grèce antique, était une religion de l'époque où le salut de l'âme était lié à l'acquisition d'une connaissance parfaite. Et ça a imprégné Hans Jonas dès le début de ses travaux, le fait que le savoir avait un rôle important pour sauver, dans le sauvage de l'âme déjà. Et le croisement de cette origine gnostique, plus l'après-catastrophe de la Shoah, l'après-catastrophe du XXe siècle, fait que Hans Jonas va avoir une obsession, lui et ses satellites, mais lui le formule le mieux, c'est qu'il faut absolument éviter la catastrophe. C'est ça l'origine de toute sa pensée, qu'on va dire politique, entre guillemets. Et pour le faire, il faut acquérir un savoir. Qui est le savoir scientifique. Hans Jonas, lorsqu'il rédige ça, c'est en 1979, la question du climat est quand même déjà bien connue. D'ailleurs, dans le principe responsabilité, il y a des pages où il décrit le réchauffement climatique avec une grande précision. Donc il était très au fait de ces choses-là. Il était très au fait de tous ces diagnostics scientifiques qui aujourd'hui sont parfaitement étayés, mais qui à l'époque ne l'étaient pas forcément.
C'était pas si évident que ça.
Il l'était dans la sphère scientifique, mais pas encore dans la sphère politique, ni vraiment intellectuel, je vous rappelle que le GIEC a été créé dans les années 80, donc voilà,
le GIEC,
c'était
donc
à
le
ce moment-là,
exactement,
c'est à ce moment-là donc que se cristallise en Allemagne une pensée donc autour de éviter absolument la catastrophe et du rôle de la science en démocratie et en politique.
Je cite aussi Günther Anders, on en a parlé, le devoir d'angoisse est aujourd'hui notre lot. Et il regrette que d'aucuns continuent, je cite encore, à vivre comme s'ils ne savaient pas, c'est exactement ce que nous faisons, bien que nous sachions. Mais Hans Jonas va encore plus loin, il va jusqu'à une forme de tyrannie bienveillante, c'est là qu'on va voir que l'école française se rebiffe, et une dictature au fond des scientifiques qui seuls pourraient éviter justement la catastrophe et l'autodestruction de l'humanité.
Exactement, c'est ce que d'autres en France ont pu caractériser d'écofascisme, c'est-à-dire mettre les scientifiques au pouvoir, les experts au pouvoir, étant donné qu'ils ont ce savoir qui seul peut permettre d'éviter la catastrophe, étant donné que c'est l'objectif de la politique selon Hans Jonas. C'est un petit peu d'ailleurs l'origine du développement durable. Le développement durable, c'est quand même lier le développement économique avec à l'intérieur des limites scientifiques qui sont elles-mêmes décrites par la science et les experts. Donc c'est un petit peu lié le développement économique à l'intérieur de quelque chose qui est décrypté par les scientifiques. Donc vous savez, le sous-titre du livre de Bruno Latour, Poétique de la nature, s'intitule « Faire entrer la science en démocratie ». Et voilà, là on y est plein dedans. Comment faire entrer la science en démocratie, qui est donc tout l'objectif de cette pensée.
Alors l'école française, on va l'appeler ainsi, donc au même moment, et de l'autre côté du Rhin, raisonnement quasiment inverse, parce que la peur, nous dit-on, engendre l'apathie. Personne ne va se mobiliser au cours d'un diagnostic aussi catastrophique.
Ils Alors ça, c'est la conséquence.
On l'a un peu vérifié, non, tout de même. Alors, et qui sont ces penseurs français, on va les citer.
Ça, c'est complètement la conséquence, puisque le rôle de la peur, en fait, est une conséquence d'un autre diagnostic, qui est le rôle de la science et des experts. Comme vous l'avez dit, de l'autre côté du Rhin, on fait le diagnostic totalement inverse. C'est-à-dire que lorsque... Alors, les principaux penseurs français dont on va parler, qui sont Jacques Ellul...
André Gorz.
Alors Jacques Ellul a commencé un peu avant, puisque les premiers écrits de Jacques Ellul sont des années 50. Il y a une grande littérature publiée dès les années 50. Bernard Charbonneau, même encore un petit peu avant. André Gorz arrive juste un petit peu après.
Ivan Illich,
bien sûr. Serge Moscovici. Enfin, ces penseurs-là qui cristallisent donc une école française, eux, déjà... Quand ils réfléchissent à l'écologie politique, on n'est pas encore en situation ni de réchauffement climatique, ni de diagnostic scientifique établi. On est encore un petit peu avant. Donc il y a
une autre origine. Dans l'intuition, au fond.
Il y a une autre origine. C'est-à-dire que leur moteur et leur motivation n'est pas celle-là. On en reviendra tout à l'heure. Mais il y a aussi le fait qu'ils se méfient, eux, du rôle des experts et de la science. Ils sont très méfiants là-dessus. André Gorz parlera justement, d'ailleurs, c'est comme ça qu'il façonne le mot d'écofascisme. Ils se méfient énormément des experts et du rôle que les experts peuvent acquérir en démocratie. Jacques Ellul, toute la littérature de Jacques Ellul est consacrée au fait que la technocratie et la technique prend le pouvoir au détriment du citoyen et de l'homme démocratique. Serge Moscovici a écrit des longues pages là-dessus et en a fait un des moteurs de sa pensée. Tous ces penseurs-là, contrairement aux Allemands, se méfient du savoir scientifique et se méfient du rôle des experts. Donc ils sont dans une totalement autre logique, puisqu'ils ne parlent pas du même postulat. Et c'est pour ça, quand on parle d'écologie, on met plein de choses derrière, et l'écologie est encore une nébuleuse qui est très difficile à définir. Alors on la définit par rapport au rôle de la science et de la nature, encore faut-il définir ce que c'est que la nature.
Oui, ils ne sont pas pour autant pour le retour à la nature, ça n'a pas beaucoup de sens.
Il faut une distinction, en tout cas pour ce qui concerne Moscovici, au retour à la nature et au retour dans la nature. Mais le retour à la nature a été prôné par certains penseurs très à droite, comme Robert Reinhardt. Mais l'origine de la pensée allemande qui est d'éviter la catastrophe est complètement inconnue des penseurs français. Leur objectif n'est pas d'éviter la catastrophe, ils ont un autre objectif, qui est parfaitement formulé, que ce soit par Moscovici ou André Gorz. André Gorz parlait d'éthique de la libération quand il parlait d'écologie, et Moscovici parlait d'ensauvager la vie. Enfin, vous voyez bien que tous ces penseurs-là, ou Jacques Ellul, lui qui voulait libérer l'homme de la domination technicienne, tous ces penseurs-là sont dans une éthique de la libération, une pensée de la libération, et de la libération de l'homme d'une autre forme de domination, que ce soit une forme de la domination technicienne, ou plutôt du système productiviste ou capitaliste, peu importe comment on l'appelle d'ailleurs pour André Gorz. Mais en tout cas, l'objectif n'est pas d'éviter quelque chose, l'objectif c'est d'emmener la société vers une autre forme de liberté, une liberté qui est amputée par tous ces interdits, que ce soit pour Moscovici, ou par le système productiviste, ou par le système technicien.
Oui, Jacques Ellul, la technique ne se réduit ni à la machine grossière du siècle dernier, ni aux gadgets sophistiqués. Il l'a défini, lui, comme la recherche du moyen le plus efficace dans tous les domaines. Au nom du progrès technique, l'homme est devenu l'instrument de ses instruments. Le moyen s'est transformé en fin, la nécessité s'est érigée en vertu. Et Charbonneau, qui était d'ailleurs son ami... Ils étaient très proches par le biais des directives pour un manifeste personnaliste, bravo, de 1935.
Qui a été republié récemment, d'ailleurs.
Et tout à fait aussi dans cette ligne. Je voudrais aussi citer Charbonneau qui propose un projet révolutionnaire d'invention de nouveaux modes de vie pour libérer l'homme de la domination technicienne. Donc on est très, très clair.
Voilà, on est vraiment dans une éthique de la liberté. Alors peu de ces penseurs ont vraiment développé une éthique de la nature. En France, dans l'école française, on parle très peu de nature, finalement. Serge Moscovici en a beaucoup parlé, mais on est vraiment plus dans la libération de l'homme d'un système qui rejoint d'ailleurs toute la pensée de l'école de Francfort et la critique de la modernité, mais pas vraiment dans une pensée de la nature. Alors, la conséquence, c'est qu'il faut un autre rapport à la nature pour libérer l'homme. Mais vous voyez, on est dans une autre logique.
On va revenir à Serge Moscovici. Au fond, la question que lui se pose, il va un petit peu plus loin. On va dire qui il est, Serge Moscovici, on ne l'a pas vraiment dit. Sociologue, anthropologue, philosophe, comment
on dit ? Non,
alors... ou les trois à la fois.
Serge Moscovici est psychologue. Il a une formation de psychologue. C'est quelqu'un qui est né en 1925, donc en Roumanie, en Bessarabie, très exactement, qui est le fils d'un marchand de blé. Donc il vit dans la campagne de Bessarabie. Et donc d'une famille juive, c'est quelqu'un qui a une histoire familiale un peu compliquée, ne serait-ce qu'avec sa mère, et qui vit les atrocités de la guerre et très directement, puisque vous savez qu'en Roumanie à l'époque on avait la garde de fer et il y a eu les pogroms, donc c'est-à-dire ces massacres contre les juifs qui est à part en Allemagne un des plus grands massacres en Europe à l'époque. Et Serge Moscovici le vit directement, donc il vit aussi d'une certaine façon la catastrophe, mais il l'interprète pas de la même manière. Il quitte finalement la Roumanie, traverse l'Europe, il arrive en France en 1948, fait des petits boulots, une licence de psychologie. Très vite, il est remarqué pour ses talents intellectuels, il est fasciné par les mathématiques, travaille beaucoup les mathématiques, que lui a toujours considéré comme un art, quelque chose de créatif. Ça ne l'aura jamais quitté d'ailleurs, puisque c'est devenu un très grand historien des sciences. Et il fait une thèse avec Daniel Lagache en 1961 sur les représentations sociales qui sont ces matrices profondes et inconscientes de nos croyances, de nos savoirs et de nos langages qui nous permettent de communiquer et de vivre dans un monde commun. Donc avec une formation de psychologue, il fait donc une thèse qui dépasse la psychologie, qui est donc une thèse sur, on va dire, la cognition sociale, la façon dont les sociétés se représentent le monde, mais qui n'est pas non plus de la sociologie, puisque la sociologie, à l'époque, a toujours essayé, depuis Durkheim, de se séparer de la psychologie, c'est-à-dire de ne pas faire de psychologie, ce qui a été toujours le péché mortel de la d'ailleurs de toutes les sciences sociales, qui depuis leur création, entre le 19e et le 20e siècle, ont été de se séparer de la psychologie pour créer une science autonome.
Arrivons à la discipline qu'il a inventée, la psychologie sociale.
Du coup, alors il l'a pas inventée, mais en tout cas il l'a ressuscitée, il a ressuscité la psychologie sociale. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est de là que, chez Moscovici, on peut tirer sa grille de lecture de ce que pourrait être l'écologie politique, peut-être plus que d'ailleurs dans ses écrits sur la nature, qui sont très intéressant et très passionnant. Il a des livres qui sont pionniers. Quand ils ont été publiés dans les années 60-70, c'était pionnier. Mais bon, aujourd'hui, c'est quasiment classique ce qu'il dit. En revanche, ce qu'il dit sur le pouvoir, la manière dont les sociétés évoluent, la manière dont elles changent et elles se transforment et qu'elles font des transitions, ça a été est encore révolutionnaire.
Un missionnaire de la cause écologique. J'ai les deux pieds sur terre et la tête à l'éthique. J'ai troqué ma moto contre un ballon gonflable. Et je roule en vélo sur les pistes cyclables. J'ai des panneaux solaires sur mon toit, mes persiennes. Dans mon jardin d'hiver, j'ai mis une éolienne. La roche pour puiser l'énergie. Qu'arrive l'orage, je filtre l'eau de pluie. Je suis vert, je voulais protéger l'univers par ces vers. Ces vers contre l'effet de serre. Je te fais une liste à la Prévert. J'achète des produits bio, du café équitable, sans hormones et du lapin durable. J'ai un costard en chambre, je fume des pueblos. Je suis pas radioactif mais actif en radio. Je suis vert, je voulais protéger l'univers par ces vers. Ces vers contre l'effet de serre. Vais-je vers une victoire ou un revers? Je perds. Et devant vous, je lève mon verre. Aurais-je tout fait à l'envers? C'est la couleur de l'espoir, de la peur, la colère.
Des géants, des martiens, des citrons, des pivers.
Et des lilliputiens qui rêvaient d'Gulliver.
Des rayons du soleil reflétés par la mer.
Un morceau de ciel bleu mêlé au jaune primaire. Je suis vert, je voulais protéger l'univers par ces vers. Ces vers contre l'effet de serre.
France Culture, matière à penser, Dominique Rousset.
Avec pour thème ce soir écologie et politique, le grand malentendu. Et nous allons aux racines de l'écologie politique, en parlant notamment de son maître, Serge Moscovici, et de bien d'autres, de penseurs français et allemands que nous avons déjà évoqués. Si je rebondis sur Serge Moscovici, c'est effectivement parce que on est ici, là, vraiment aux sources de ce qui nous intéresse dans ce thème, un raisonnement individuel, on l'a dit, court-circuité peut-être en présence des autres. C'est comme ça que la société fonctionne. J'ai dit que Moscovici avait, vous l'avez dit, qu'une pensée complexe, c'est-à-dire un parcours à la fois sociologique, anthropologique, philosophique, vous avez même dit qu'il était un grand amateur des mathématiques et qu'il est à l'origine de la psychologie sociale, qui selon vous éclaire beaucoup ce débat.
Alors, le fait que... Il
est peu connu, Moscovici, au fait, en France.
Oui, alors et ça, c'est vrai qu'il est peu connu. Alors c'est quelqu'un qui a un docteur honoris causa d'une quinzaine d'universités à travers le monde, qui est très connu à l'étranger, notamment aux États-Unis ou en Italie. En France, il avait la particularité d'avoir un très mauvais caractère, de s'être, on va dire, brouillé avec des grands penseurs de son époque, ce qui n'a pas dû aider. Et puis.
Admirait tout de même, hein, par aimait... Fontaine, par...
Avec une certaine admiration. C'est quelqu'un qui, c'était un penseur, on pourra le qualifier de naïf, c'est-à-dire qu'il remettait tout en question, avec une naïveté presque enfantine, au point que des évidences pour tout le monde ne l'étaient pas du tout pour lui, et ça lui permettait du coup d'avoir cette pensée subversive. Lorsque vous avez rebondi sur cette question de la raison, ça c'est moi qui l'interprète de Moscovici, hein. Effectivement, la pensée sociale nous enseigne quelque chose. En tout cas, la psychologie sociale, c'est qu'un individu ne raisonne pas de la même manière. Alors, quand je parle de raisonner, je parle de dans le sens cognitif, hein. La raison individuelle n'est pas la même selon que l'on soit seul
ou en présence des autres.
Ou en présence des autres, que cette présence soit virtuelle ou réelle. Ou... Serge Moscovici tire ça d'un autre penseur qui est Gustave Le Bon et développe ça dans la psychologie sociale. Et la psychologie sociale, toute la psychologie sociale après-guerre n'a fait qu'expérimenter cette chose-là avec... alors on pourrait citer l'expérience de Milgram sur la soumission à l'autorité, l'expérience de la dissonance cognitive avec Festinger, et puis plein d'autres expériences, puisque la psychologie sociale est une des seules sciences sociales expérimentales. Et donc, lorsqu'il est en groupe, un individu subit des influences psychologiques qui font que sa raison, alors c'est moi qui dis qu'elle est court-circuitée, mais en tout cas elle est différente, et du coup ce n'est pas le cogito de Descartes qui est isolé pour aller réfléchir et tout remettre en doute. Lorsque l'individu est en groupe, il est pris par des choses, pris par des représentations sociales, pris par des énergies, pris par des croyances qui l'emmènent quelque part et qui l'empêchent ou qui le freinent d'agir selon sa conscience. Ce que Moscovici...
Est-ce que c'est pour ça, j'essaie de le ramener à notre thème écologie et prise de conscience, enfin, de l'ensemble d'une société, devant la gravité des enjeux aujourd'hui qui ne sont plus à démontrer.
C'est pour ça qu'un comportement qui peut nous paraître irrationnel ne l'est pas forcément.
On entend parler des dangers, la prise de conscience n'est pas tout à fait là.
Tous les jours, toutes les semaines, vous voyez bien qu'on a des tribunes de scientifiques tous les quatre matins. Encore il y a quelques mois, on avait 15 000 scientifiques, alors bientôt ce sera encore plus, qui nous alertaient sur les dangers de notre comportement. Et pourtant, on ne change pas nos comportements collectifs. Donc effectivement, ça peut avoir une allure irrationnelle. On se dit, la rationalité, c'est d'agir selon, définir un moyen et définir une fin et d'agir selon le moyen qui permet d'obtenir cette fin. Étant donné que personne ne veut aller vers la catastrophe, c'est quand même irrationnel de ne pas écouter le discours scientifique, le discours rationaliste. Sauf que, je crois que c'est Hervé Le Treut qui disait que on va pas bouleverser les modèles sociaux parce qu'on fait des modèles informatiques qui nous disent qu'on va dans le mur. Et c'est tout à fait exact. C'est-à-dire que la raison, effectivement, l'individu, rationnellement, lorsqu'il est seul, il trouve ce comportement irrationnel. Mais lorsqu'il est en société, il est soumis à des pressions plus ou moins psychologiques d'ailleurs, qui font que ses comportements changent et que, on essaye, alors pour parler très concrètement, d'avoir une voiture un petit peu plus grosse que celle du voisin, on est en compétition pour l'emploi, on est en compétition, enfin, il y a plein d'autres paramètres dans la société qui font que nous subissons de manière plus ou moins consciente, des pressions qui nous poussent à agir autrement que selon notre raison qu'on aurait de manière totalement individuelle à la Descartes. Ce que Moscovici va quand même ajouter, c'est que parce que certes, la psychologie sociale fonctionnaliste s'est focalisée sur la pression de la société sur l'individu, Moscovici, lui, va renverser la chose et rajouter que l'individu, c'est au fil des pressions, des influences psychologiques sur la société. L'individu, ou appelons pour faire court, la minorité, ce qu'il aurait pu appeler la minorité active. Et Nicolas Hulot avait une phrase qui illustrait assez bien ce rôle des minorités ou des individus sur la société, ou sur le groupe, ou sur la masse. Il disait, si vous pensez que vous êtes trop petit pour agir, essayez de dormir avec un moustique et vous verrez lequel embête l'autre. Alors, c'est une anecdote, mais c'est vrai que ça illustre assez bien que les individus ou les minorités ont un rôle dans les représentations sociales, dans ces matrices cognitives que la société met en place collectivement, et ont une influence, qui est donc l'influence minoritaire sur le groupe, par des mécanismes...
Ça veut dire que la minorité active est plus innovante, c'est elle qui va favoriser de trouver des solutions ou d'aller vers des processus d'influence sur les autres.
on va prendre un exemple. Aujourd'hui, les véganes, par exemple, peuvent être considérés comme minorité active. Je prends l'exemple des véganes parce que c'est pas un exemple que l'écologie sociale avait travaillé du temps de Moscovici, puisque il a fait des travaux académiques jusqu'à peu de temps. Enfin, il est mort en 2014, donc il n'avait pas travaillé là-dessus. La majorité, l'orthodoxie, on va dire, son objectif, c'est la stabilité. Elle peut pas se bouleverser du jour au lendemain et changer complètement d'attitude du jour au lendemain sous peine de fragiliser l'ensemble de la société. Donc, la majorité, l'orthodoxie, elle est stable. En tout cas, son rôle, c'est d'obtenir la stabilité. À côté de ça, les minorités, elles peuvent expérimenter. C'est un petit peu comme dans la nature, elles peuvent expérimenter des alternatives. Les véganes, eux, expérimentent des alternatives, des modes de vie alternatifs, des philosophies alternatives. Leur influence sur la société n'est pas que la société ou la majorité va devenir végane du jour au lendemain, ou même que va devenir des véganes tout court. En revanche, l'existence de cette minorité, de la minorité végane, a deux conditions, qui est donc les conditions qu'elle respecte, c'est-à-dire qu'elle soit assez radicale et qu'elle soit assez stable dans ses convictions, c'est-à-dire qu'elle entre pas trop dans le compromis, hein, et qu'elle va forcer la majorité à se configurer un problème qu'elle ne se serait pas configurée si la minorité n'avait pas existé. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'ensemble de la société ne devient pas végane. Mais on commence à s'interroger sur nos rapports aux animaux, sur notre rapport à notre alimentation, au bien-être animal. Des choses que on ne se serait pas questionné si cette minorité active, cette minorité végane n'avait pas existé. Et par son existence même, elle donne des coups de boutoir à la majorité, elle fait évoluer la société comme ça. Et ben, c'est de la même manière que Moscovici imaginait l'écologie, il imaginait ça comme une minorité active, donc c'est-à-dire une minorité assez radicale avec des comportements assez radicaux, des modes de vie très alternatifs qui vont questionner la société, l'ensemble de la société, et la faire évoluer sur le long terme par ce biais-là et non pas par le biais de la prise du pouvoir telle qu'elle peut être développée dans la politique classique ou telle qu'elle est conçue depuis Machiavel.
La plupart des changements sociaux sont l'œuvre des minorités, insiste-t-il sur ce point. Et au fait, quel rapport faisait-il avec l'engagement politique dans ce cas? Est-ce que les minorités actives, il les voyait entrer dans l'activité politique, dans l'action politique? Et lui-même d'ailleurs, qui a été un précurseur du mouvement écologiste, comme vous l'avez dit, a appartenu aux Verts. Oui. Mais il les a quittés, on va rester encore un instant avec lui, parce que c'est intéressant dans notre sujet. Il les a quittés lors de l'entrée des Verts dans le gouvernement Rocard. Pour lui, les Verts avaient perdu leur possibilité d'action en devenant une minorité majoritaire.
Oui, c'était son expression.
C'est un paradoxe, en fait, mais c'est...
Il disait que l'écologie... Alors, il avait quitté les Verts en 91, lors de leur entrée dans le gouvernement de Michel Rocard, en disant que c'était une minorité qui voulait jouer dans la cour des grands. C'était ça son expression, parce que selon lui, les Verts avaient...
Donc elle abandonnait les armes en faisant ça.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, en cessant d'être une minorité, elle abandonnait les armes d'une minorité, et en jouant le jeu des institutions, en jouant le jeu de la politique, elle perdait toute son influence.
Elle quittait les marges.
Elle quittait totalement les marges, et du coup, elle perdait son influence sur la majorité, sur les comportements, sur l'évolution des modes de vie de l'ensemble, sur vraiment la transition qu'aurait pu faire la société. C'est-à-dire vraiment pour... Moscovici et une partie de ses satellites, c'est-à-dire cette école française, l'écologie se joue en dehors des institutions. Elle se joue en dehors du pouvoir. Elle ne s'inscrit pas dans la grille de lecture des institutions telles qu'elles existent par le jeu de la défense des intérêts et des rapports de force. Et d'ailleurs, on voit bien qu'elle a du mal à s'inscrire là-dedans, encore aujourd'hui. Alors, les Verts ont quand même vécu une sorte de shift à ce moment-là, puisqu'en fait, c'est à ce moment-là, dans 91, que le GIEC ayant été créé en 88, que les scientifiques commencent à donner raison aux Verts, aux écologistes.
Alors le GIEC, juste un instant Florent Gagnard pour l'information, le GIEC c'est donc ce groupement international des experts du climat qui produisent des rapports depuis, ces années-là, tous les trois ans.
Sur l'état de la planète et du climat principalement. Ouais.
Très peu entendu et même très peu lu on va dire pour les premiers et de plus en plus écouté aujourd'hui. Et
on peut, parce qu'ils avaient raison depuis avant tout le monde.
Mais qui avaient raison avant tout le monde, mais à l'époque les climato-sceptiques étaient encore... très actif et pas seulement, je parle pas seulement de la France bien entendu.
Exactement, et justement le fait que donc...
On pourrait même remonter au rapport de Rome qui est beaucoup beaucoup plus antérieur et qui a dérangé les gouvernants.
Tout à fait, mais à partir du moment où c'est l'ONU, le GIEC qui institutionnalise cela, ça a un impact beaucoup plus important et ça rentre frontalement en politique, puisque ce que le GIEC, donc ce que l'ONU dit depuis 88, c'est que notre mode de développement n'est pas compatible avec la survie de l'humanité. Et ça a un écho fondamental en politique. Et le fait que les Verts jusqu'à ce moment-là développaient donc une sorte de stratégie de minorité active qui a complètement changé à partir des années 80 et principalement 91 lorsqu'ils entrent au gouvernement, étant donné que à partir de ce moment-là, les scientifiques leur donnaient raison. Ce qui paradoxalement a été dramatique pour eux puisque ça a cessé tout développement d'adhésion et la rhétorique de l'écologie politique institutionnalisée, parce qu'évidemment encore l'écologie politique ne se résume pas au vert, mais on parle de Moscovici, fait que ils ont cessé de développer une rhétorique et se sont abrités derrière l'autorité scientifique et la raison. Sauf que la raison, ça ne fait pas agir, ça ne déplace pas les montagnes. Vous savez, Dostoïevski, l'écrivain russe, disait « Si nous n'agissions qu'avec la raison, il ne se passerait rien dans le monde ». Mais c'est vrai, et encore plus collectivement, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, lorsque l'homme est en société ou en groupe, l'inconscient prend le dessus. Et d'ailleurs, c'est très, très souvent, on parle de l'écologie de prise de conscience. J'aime pas trop cette idée, parce que on n'en est pas à la prise de conscience. Hein, justement, ce serait presque une prise d'inconscience qu'il faudrait faire. C'est-à-dire que ça pénètre dans notre inconscient, puisque c'est ça qui fait agir les gens, plus l'inconscient que la connaissance.
Qui a gagné dans ce débat entre Français et Allemands? Qui a eu le dernier mot, hein, vous l'avez rappelé, donc entre la partie un peu plus catastrophiste, on va dire, du côté allemand, et la partie, attention, méfions-nous quand même du scientifique. Moscovici, encore lui, disait que l'écologie pouvait s'appauvrir en s'abritant trop derrière le savoir scientifique.
C'est les Allemands qui... l'école allemande qui a pris le dessus, puisque aujourd'hui nous sommes dans une configuration un peu différente, qui est, nous sommes dans l'ère de l'anthropocène et nous sommes dans une voiture, la société dans une voiture, on va dire, et on voit la catastrophe arriver, et du coup la voiture ne bouge pas. Alors les Français, l'école française se serait inquiétée du moteur, l'école allemande se serait inquiétée des freins. Et aujourd'hui, le discours politique général sur l'environnement, on s'intéresse aux verrous, aux freins qui empêchent de faire la transition. On s'intéresse très peu aux moteurs.
On s'accorde quand même sur l'accélération de tout cela.
On s'accorde sur l'accélération
du
de
temps,
tout cela.
La manière dont le temps nous pousse quand même.
Oui, mais parce que les héritiers de l'école française, de Moscovici, de André Gors, ont quasiment disparu, parce qu'encore une fois, voilà, nous sommes rentrés désormais dans l'ère de l'anthropocène, et la question d'éviter la catastrophe dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, est devenue prégnante. Alors effectivement, après, dans le diagnostic, il n'y a pas qu'une seule raison pour laquelle nous sommes dans un immobilisme relatif. Il se passe quand même des choses. Certes, on n'est pas à la hauteur des enjeux, mais il se passe quand même des choses, ne serait-ce que dans les conférences internationales de l'ONU. C'est la stratégie des petits pas, d'ailleurs,
comme l'a souligné Nicolas Hulot au moment
mais,
de son départ.
Vous savez, il y a une question métaphysique aujourd'hui qui est peut-être la question métaphysique du siècle, qui est donc pourquoi est-ce qu'on sait et qu'on n'agit pas? Pourquoi est-ce que l'on n'agit pas selon l'homme rationnel qui est né des Lumières et qui a émergé et qui finalement n'est pas si rationnel que ça? Toute notre discussion vient d'en apporter une réponse. Mais il n'y a pas que cette réponse-là. Et peut-être que d'autres ont raison, hein, en pointant l'incompatibilité avec le système économique, le capitalisme ou le libéralisme, qu'il faudrait peut-être d'ailleurs définir, ou ceux qui soulèvent la question éthique, notre rapport moral à la nature, ou le rôle des médias, ou le rôle des institutions d'ailleurs.
Pour André Gors, on revient encore à ses sources de l'écologie politique française. Pour André Gors, il y avait également un projet de transformation sociale. Il était beaucoup question du travail, par exemple, hein, l'extrême division du travail, le capitalisme, le libéralisme qui serait des freins avec le consumérisme, avec une croissance très, très destructrice. Mais il y avait vraiment une idée de transformation, un projet de transformation de la société pour succéder au capitalisme. Là
oui,
encore, alors, il n'a pas gagné.
Il n'a pas gagné, alors en même temps, c'était quelqu'un d'assez visionnaire, puisque c'est un des seuls intellectuels, et je vous rappelle qu'il n'était pas économiste, même s'il travaillait beaucoup d'économie, il était journaliste, puis un penseur, philosophe, donc, il est décédé en 2007, et c'est quelqu'un qui avait prédit presque mot pour mot la crise des subprimes de 2008, qui s'allait transformer en crise financière et en crise économique, qu'il l'avait parfaitement prédit. Donc c'était un fin connaisseur du système économique, du système financier, de la société dans son ensemble. Mais c'est vrai que André Gors était vraiment dans une éthique de la libération, et son grand souci, c'était de s'attaquer au système productiviste, plus que peut-être au système capitaliste ou au système, puisqu'il renvoyait dos à dos très souvent le socialisme incarné par l'Est et le capitalisme. Donc c'était vraiment libérer l'homme d'un système productiviste et libérer la nature de ce système. Et d'ailleurs, André Gorce était un grand penseur également du travail, et pour libérer l'homme du productivisme, il pensait libérer l'homme du travail. C'est pour ça que, même si au début de sa vie, pour des raisons déontologiques, il était contre cette idée donc de qu'on appelle revenu universel, mais que lui appelait allocation universelle, à la fin de sa vie, il a basculé vers une approche plutôt téléologique, c'est-à-dire conséquentialiste, et il a prôné l'allocation universelle, le revenu universel, parce que son objectif, c'était de détruire ou de renverser ce système productiviste qu'il accusait à la fois d'aliéner l'homme et de détruire la nature. Et cette aliénation de l'homme et destruction de la nature allait de pair dans ce qu'il a développé comme étant une écologie politique.
André Gorce, donc, décédé effectivement en 2007 dans des conditions...
Dans des conditions assez... oui, tout à fait. Il s'est suicidé avec sa femme après lui avoir... écrit des lettres magnifiques qui ont été publiées également.
Lettres à des superbes. Florent Gagneur, si l'on revient sur ce malentendu, le grand malentendu écologie et politique, vous l'acceptez d'ailleurs ce titre ?
Alors encore une fois, tout dépend de ce qu'on appelle écologie, mais c'est sûr, il est évident que l'écologie a du mal à se traduire dans les grilles de lecture politique classiques. Que ce soit partisan ou pas d'ailleurs, hein. C'est un sujet nouveau qui est émergé de manière récente pour des motifs différents, qui se traduit aujourd'hui par la question de la crise environnementale et que ça a forcément du mal à se traduire à la fois dans notre grille de lecture et d'analyse politique, mais également dans nos institutions.
La question des institutions, justement, elle est quand même au cœur de ce débat. Est-ce qu'elles ont vraiment pris la mesure là aussi? De l'enjeu, puis d'ailleurs de quelles institutions parle-t-on?
Alors il faut être assez clair.
On est sur ce débat court terme, long terme au fond. Hein,
oui, alors effectivement, il serait absurde de dire que les institutions sont la cause de la crise environnementale. Hein. C'est pas du tout ça, mais en revanche, les institutions sont un frein pour répondre aux enjeux que soulève la crise environnementale. Pourquoi? Parce que, bon, vous savez que depuis que les démocraties représentatives ont été créées, elles ont été critiquées, que ce soit de Condorcet, Tocqueville, enfin la critique du court-termisme des démocraties est quelque chose de très classique, hein, le fait que le rythme des échéances électorales fait qu'on essaie de mettre en place des politiques publiques qui auraient des résultats à court terme pour pouvoir être réélu, puis le jeu médiatique qui va en rajouter, le jeu financier qui va en rajouter. Enfin, nous sommes dans des sociétés de court terme, et effectivement, les enjeux environnementaux sont non seulement des enjeux globaux et irréversibles, mais ce sont des enjeux de long terme. C'est ça qu'on appelle l'anthropocène d'ailleurs, hein, c'est les enjeux globaux et irréversibles. Et à partir du moment où du coup on rentre dans l'anthropocène, ça devient un problème. C'est-à-dire qu'une critique, qui est donc la critique de la démocratie représentative qui existe depuis ses débuts, est aujourd'hui un problème fondamental, parce que nous sommes face donc justement à ces questions et face à l'anthropocène, et qu'on a du mal à intégrer les enjeux de long terme dans les enjeux de court terme. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'avec Dominique Bourg et d'autres, il y a quelques années, on avait fait la proposition d'une chambre parlementaire qui puisse contrebalancer.
Du futur, hein, je crois que c'était le terme que vous aviez proposé.
Oui, il y a plusieurs noms, effectivement.
Hein, une chambre du futur.
Certains l'ont appelé parlement du futur.
Une troisième chambre.
Ou deuxième, enfin, à la rigueur, peu importe où est-ce qu'on la met. L'idée était la même, c'était de dire que c'est pas la question d'une personne, ni d'un poste, qui va faire changer les choses. C'est, alors, en tout cas, sauf si on est dans une vision très moscovicienne qui est de dire qu'on va faire une écologie par le bas, qui est plus une écologie culturelle qu'une écologie politique. Mais à partir du moment où on rentre dans cette logique que nous sommes face à la crise environnementale et qu'il faut absolument la contrecarrer, ou en tout cas trouver une alternative, l'idée était de dire il faut une chambre parlementaire qui prenne en compte les enjeux de long terme et qu'il impose les enjeux de long terme dans le processus législatif. Alors, sauf que pour que cette chambre fonctionne, il faut pas qu'elle fonctionne comme l'Assemblée nationale aujourd'hui, qui est élue au suffrage universel, direct pour l'Assemblée nationale, direct pour le Sénat. Parce que sinon, on retombe dans les travers de l'élection et du court terme. Donc, il y avait toute la question de comment est-ce que l'on compose cette chambre, sachant qu'il faut quand même lui donner une certaine légitimité pour intervenir sur la loi. Donc, ça, c'était tout un jeu de rouages institutionnels que l'on avait travaillé, que l'on avait proposé donc avec plusieurs intellectuels dans un livre qui s'appelait l'Assemblée citoyenne du futur, où on proposait de revenir au tirage au sort.
Vous pensez toujours, Florent Gagneur, que c'est ce qu'il faudrait faire? Que l'écologie politique doit aussi aller dans ce sens, vers plus d'ouverture à la société civile?
Je pense que ça ne suffira pas, mais effectivement, les institutions sont un frein pour résoudre la crise environnementale. Ça, oui, je le pense. Oui. En écologie, c'est toujours pareil. On en revient toujours à cette école allemande, l'école française. Il y a les freins et le moteur. C'est-à-dire que faire sauter les verrous du changement, ça ne suffit pas s'il n'y a pas de moteur dans la société pour changer. Et la raison, le diagnostic scientifique n'est pas un moteur suffisant en soi. Personne dans la vie, que ce soit même un individu ou une collectivité, n'agit et fait ses choix dans la vie en fonction de ce que disent les scientifiques. Ça n'existe pas. On fait des choix dans la vie en fonction des désirs, des passions, des représentations et du partage qu'on peut avoir les uns les autres. Et effectivement, la transition, ça veut dire deux choses. Ça veut dire faire sauter les verrous du changement. Alors les verrous du changement, moi je les identifie plutôt dans les institutions qui peinent à prendre en compte justement les intérêts du long terme dans la prise de décision. Mais ça ne suffira pas parce qu'il faut aussi un moteur, il faut aussi que la société ait envie d'aller quelque part, ait envie que le modèle écologiste soit un modèle qui suscite l'adhésion, qui suscite l'engouement. Serge Moscovici disait « faire de la politique, c'est l'art de soulever les foules ». Il faut que les foules puissent se soulever pour l'écologie. En majorité, les gens se mobilisent pour les questions sociales, on descend beaucoup plus facilement dans la rue que pour des questions environnementales, non pas parce qu'ils n'ont pas un rapport à la nature, mais parce qu'on a fait de la crise environnementale ou de la question environnementale quelque chose de scientifique.
Et bien voilà, Florent Gagnard qui rejoint l'école française quand il vient de nous parler longuement. Depuis, car je rappelle que c'est une réécoute de cette émission Écologie et politique, le grand malentendu, et depuis, Florent Gagnard doit s'en satisfaire, la jeunesse semble avoir tout de même entendu le message et manifeste assez régulièrement. Merci à notre équipe de ce soir, Anne-Laure Chanel, accompagnée de Marie Le Peintre, et bien sûr pour la préparation, la documentation, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet et notre stagiaire, Nino Lima. Bonsoir à tous.